Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler ergonomie et psychologie du travail en compagnie de Sandrine Blanchet qui est maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Et Héloïse Boisvert qui est étudiante de ce master qui fête son anniversaire, ses 40 ans. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, vous venez de fêter les 40 ans de ce master. C'était vendredi dernier avec une journée spéciale consacrée à ce master et aux 40 ans donc d'ergonomie et de psychologie du travail. Une journée qui était professionnelle, hein, réservée aux professionnels de l'ergonomie et de la psychologie du travail. Peut-être revenir un petit peu sur il y a 40 ans, quand est né ce master, quelle était un petit peu l'intention ?
Alors, il y a 40 ans, donc dans les années 80, évidemment, 1984, il y avait le souhait de pouvoir créer un master qui assemble des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, à l'époque en tout cas, qui était la psychologie du travail et puis l'ergonomie, dans un contexte où, sur le plan économique, il y a eu un certain nombre de transformations dans les années 70. Et puis, en 1980, il y a des évolutions gouvernementales aussi, avec des impulsions, notamment par le ministre du Travail de l'époque, Jean Roux. Et donc, ça permet de valoriser aussi la place des actifs dans leur travail, la façon dont ils peuvent bien se débrouiller au quotidien en s'exprimant et en agissant sur leur travail. Donc ça conditionne un peu toute l'émergence de ce master-là sur le territoire de Poitiers qui n'avait pas encore de master dans cette discipline.
Et vous, pourquoi vous vous êtes intéressée personnellement à cette discipline-là et à donc à enseigner dans ce master ?
Alors, m'intéresser à ces disciplines-là quand j'étais encore lycéenne, il y a quelques temps, parce que moi, je suis née dans une génération récession, chômage, orientation difficile sur le champ professionnel. Et donc, au départ, je voulais être conseillère d'orientation psychologue. Pour faire ça, il fallait absolument avoir le diplôme de psychologue du travail. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert en fait tous les champs d'application de la psychologie et de l'ergonomie, qui sont bien plus vastes que juste l'évaluation et l'orientation. Et donc, en poursuivant le cursus, je me suis dit que j'allais passer ce diplôme-là. Et puis après, j'ai jamais vraiment quitté l'université de manière fermée et définitive, parce que j'ai continué à donner des TD quand j'étais débutante et puis à suivre des mémoires. Et donc, je suis enseignante associée depuis 7 ans.
Et vous, Héloïse Boisvert, alors qu'est-ce qui vous a amené à ce master-là ?
Alors moi, du coup, à la base, je n'étais pas du tout dans cette idée-là. C'est plus le domaine de la santé en général qui m'intéressait. Je me suis dirigée plus vers des études de kiné. Donc j'ai fait une PACES au début et au final, niveau concours et tout ça, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Donc j'ai dû me réorienter en chiropraxie, d'autres études qui concernaient la prise en charge de la santé. Et c'est en fait, durant le cursus, j'ai eu des cours de psychologie qui m'ont beaucoup intéressée et beaucoup qui m'ont amenée à me remettre en question sur ce parcours-là et m'intéresser plus à la psychologie. Et donc, c'est ensuite, je suis partie en licence de psycho à Poitiers. Donc, au début, je ne savais pas trop vers quoi aller. Et c'est durant le cursus, on a eu des cours un peu d'ergonomie et de psychologie du travail qui m'ont amené à me questionner sur ça. Et c'est vrai que c'est des domaines assez complémentaires, les deux, qui m'intéressent beaucoup, du coup, dans la prise en charge des entreprises et la posture à avoir envers les entreprises à ce niveau-là, quoi.
Et alors, vous parliez de Jean Auroux, qui était votre invité vendredi dernier, donc ministre du Travail à l'époque dans les années 80.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il est venu vous apporter ? J'imagine qu'il a un regard très intéressant sur l'évolution de cette discipline et de l'ergonomie du travail.
Oui, on était très honorés et heureux de pouvoir l'accueillir. C'était très riche, puisqu'en fait, il nous a raconté un petit peu son parcours à lui, mais du coup, qui est très intéressant, puisqu'on voit comment il a évolué dans des univers qu'on a l'habitude de côtoyer, nous. Et puis, de fil en aiguille, par des questions d'opportunité, il a pu faire valoir son point de vue, en fait, sur, justement, comment se concerter dans les entreprises, le fait d'avoir besoin d'instances spéciales, conçues. Et à l'époque, il a créé les comités d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail. Et puis, ce monsieur est resté très, très actif, en fait, toute sa carrière, même passé son mandat politique. Il fait encore beaucoup d'interventions dans beaucoup de conférences. Et il nous a transcrit une vision du monde du travail d'aujourd'hui aussi, qui est celle qu'on constate, c'est-à-dire le fait que post-pandémie, les gens se sont rendus compte que bien, l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle avait besoin d'être mieux travaillée, mieux organisée, et qu'on pouvait se réaliser dans son travail. Et donc, il était déjà vecteur, dans les années 80, de cette pensée-là et de cette orientation-là. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant de l'entendre nous raconter comment il avait fait émerger certains textes de loi sur lesquels nous, on s'appuie énormément aujourd'hui dans notre métier. Parce que donner la possibilité à quelqu'un de s'exprimer, c'est vraiment l'un des fondamentaux, Héloïse, je pense, le partagera, de notre métier.
Oui, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, Héloïse, de son intervention? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les évolutions?
C'était très intéressant de voir donc quelqu'un qui vient, entre guillemets, plus des années, ou enfin moi, dans tous les cas, j'étais pas née, et qui ont eu beaucoup d'impact sur le futur et sur ce qui se passe aujourd'hui. Et voir sa vision à lui et sa grille de lecture en fait, du monde du travail était assez percutante. Et enfin, il montrait, il est assez actuel sur des thématiques telles que le télétravail. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Enfin, il a mis en avant certains sujets qui sont toujours questionnables aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était très intéressant de l'avoir parmi nous. Ouais.
Et alors, comment a évolué justement le travail depuis les années 80? J'imagine qu'il y a eu pas mal d'avancées, et puis parfois des à-coups comme le Covid, vous le disiez, qui font parfois changer les choses d'un coup.
Alors, le travail a évolué, s'est transformé, mais d'une certaine manière, il y a quand même des constantes qu'on retrouve. Et du coup, les intervenants de la journée de vendredi, comme Thomas Coutreau ou Pascal Huguetto, retranscrivaient à la fois cette notion de complexification et d'intensification de tous les métiers, avec l'arrivée de l'informatique aussi, de manière franche et massive, dès les années 80. Et puis, on a même, bien sûr, évoqué les questions d'intelligence artificielle, avec les questions que ça peut poser pour le futur. Il y a aussi la question de la place, finalement, des salariés dans les entreprises pour prendre les décisions, de comment les directions arrivent à les associer ou pas, pour concevoir leur activité quotidienne. Donc, quelques enquêtes ont été aussi partagées, assez significatives, sur le sens qu'on peut trouver en fonction de la possibilité qu'on a de s'exprimer, de la possibilité qu'on a de faire évoluer son quotidien. Donc, il y avait beaucoup d'éléments autour du sens, de la possibilité de s'exprimer et de la complexification de notre monde qui ont été évoqués comme évolution significative de ces 40 dernières années.
Et sur les technologies numériques, comment ça a changé les pratiques en ergonomie, justement?
Alors, on a forcément renforcé, chemin faisant, la question de ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'UX design, l'expérience utilisateur et le choix des environnements numériques les plus adaptés. Donc, c'est un élément qui est pris en compte par les ergonomes dans la conduite des projets de changement, de création, de nouvelles organisations. Et ça nous amène à bien s'intéresser à comment l'utilisateur final va pouvoir se servir de l'interface qu'il a à gérer dans son quotidien de travail. Puisque vous l'avez, je pense, tous connu, ce petit moment où on ne trouve pas dans le menu l'information dont on a besoin pour cliquer, on a un temps d'attente, on a un bug, et pour réaliser son travail, ça peut nous mettre un peu en tension. Donc voilà, le numérique sollicite forcément des approches ergonomiques.
Et j'imagine que dans votre master, ça prend une place également, ce numérique.
Effectivement, on a des cours en lien sur l'ergonomie et sur la psycho du travail. On a certaines approches pour essayer de cerner et voir une variabilité. Après, ça va plus se définir dans ce que nous, on choisit de donner comme couleur à notre parcours, vu que le master est assez global. Et ensuite, c'est à nous de décider vers quoi on se dirige derrière, en fait.
Et vous allez vous diriger vers quoi, du coup?
J'ai vu sur l'ergonomie qui m'intéresse beaucoup, donc la prise en charge dans les entreprises des troubles musculo-squelettiques ou de l'organisation en elle-même. Et donc, c'est en combinant l'approche psychologique et ergonomique que je pense à avoir un point qui est assez intéressant, une posture assez intéressante.
Et alors, dans ces évolutions du travail, quel est le rôle des syndicats là-dedans pour faire évoluer les choses, le temps de travail? On sait qu'ils perdent un petit peu du terrain en ce moment, mais ils ont fait beaucoup évoluer beaucoup de choses.
Oui, ils se sont structurés en tout cas sur le registre des conditions de travail, notamment avec la création des CHSCT et des délégués du personnel. Mais ils ont été défaits par ces instances ont été défaites par les ordonnances Macron de 2017. Ça a supposé de réajuster le tissu syndical. Donc leur action est plus difficile aujourd'hui quand on rencontre dans les entreprises où on est amené à intervenir, les étudiants et moi dans nos quotidiens respectifs, on rencontre des organisations syndicales qui sont en difficulté parce qu'elles ont moins de possibilités de s'exprimer puisqu'il y a moins d'instances, il y a moins d'heures dévolues aussi à cette activité syndicale. On rencontre qui sont un peu en difficulté psychologique puisqu'ils sont... le dernier sas d'enregistrement d'une difficulté, d'une souffrance, d'une plainte d'un salarié qui ne sait pas comment régler le problème dans son quotidien avec sa hiérarchie ou ses collègues. Donc c'est une activité qui est à la fois très vecteur de sens parce que je pense qu'ils perçoivent l'intérêt d'être présents auprès de leurs collègues, mais avec des moyens qui sont différents aujourd'hui, qui peinent à se structurer et une perception de pouvoir agir sur les décisions qui est limitée. Donc, des syndicats qui peuvent avoir des difficultés dans leur quotidien.
C'est intéressant, on va justement parler santé mentale juste après dans le milieu du travail. Donc on parle aujourd'hui des 40 ans du Master Ergonomie et Psychologie du Travail à l'Université de Poitiers. Et on continue juste après. 34 Murphy, c'est le rappeur au visage masqué du Val d'Oise. Dans ce dernier projet La Chouette, on trouve ce titre, L'amour et la haine.
Les couleurs et ma. Je mélange les couleurs et ma peine. Là quand je suis défoncé que la terre est grande. Pense qu'à monter moi j'atterris pas la nuit chez moi c'est terrifiant c'est pas fini mais je guéris tant. Ils ont des cornes et j'ai des ailes dans le dos. On m'a répété que j'étais juste en trop. J'ai vu la porte entre ouverte et j'ai rentré plus qu'une mano. J'ai fait passer tous les miens. Le cœur gelé sous la camo, les yeux vidés pour des gains. Éduqué dans la merde, accompli dans la haine. On se fait du mal, on se fait du bien. On s'arrête, on fait la même. Je comprendrai jamais ni comment t'es ni comment t'aimes. Je suis parti loin là-bas, je compte sur le vent pour qu'ils m'enterrent. J'ai les yeux rivés sur mon pain, j'écouterai pas leurs commentaires. Mais tu sais, faut que je garde cette lumière, c'est la seule. Les souvenirs, les photos, tout va s'effacer. Je sais que tout va disparaître. Ce sera fini l'histoire. On m'a dit canaliste, mais je tourne le soir avec mon shit et ma peine, l'amour et la haine. Me sers un verre à la tienne. Comment voulais-tu que je t'aime? J'étais seul dans le noir et tu m'as laissé comme tel. Ils ont des cornes et j'ai des ailes dans le dos. On m'a répété que j'étais juste en trop. J'ai fait la porte entre ouverte et je fais passer tout le monde. Ils veulent m'arrêter mais je finirai tout devant. J'ai leur sourire dans la tête et d'un coup plus rien d'autre compte. Si je dois partir, écoute-moi, j'aurais voulu que tu le vois. Mais pour l'instant le ciel gronde. Je comprendrai jamais ni comment t'es ni comment t'aimes. Je suis parti loin là-bas, je compte sur le vent pour qu'ils m'enterrent. J'ai les yeux rivés sur mon pain, j'écouterai pas leurs commandes. Bon. J'ai les yeux rivés sur mon pain, j'écouterai pas leurs commentaires. Quand j'ai pas demandé comment faire, je suis rentré, j'étais meilleur, je suis ressorti gravon. Pierre, ils veulent la faire, on part en. Ils veulent la faire, on part en guerre, guerre cramée dans la reine. La femme elle veut se régaler, je suis dans le noir et dans la monnaie, je suis dans l'arrêt, dans la ronde. Et comme tous les matins j'erre seul, même si t'es les mêmes sommes, j'ai tout mis dans les mêmes sons, je fais tout pour tuer la bête. Rien gagné donc on reste un, on verra qui va rester. J'aime pas vraiment les questions, mais bon je vais faire avec, faut que je finisse ma quête. Il faut que je trouve mon salut, on charbonne, on s'allume jusqu'à perdre la tête. Il faut que je finisse ma quête. Mais tu sais, faut que je garde cette lumière, c'est la seule. Les souvenirs, les photos, tout va s'effacer. Je sais que tout va disparaître. Ce sera fini l'histoire. On m'a dit canaliste, mais je tombe le soir avec mon shit et ma peine, l'amour et la haine. Me sers un verre à la tienne. Comment voulais-tu que je t'aime? J'étais seul dans le noir et tu m'as laissé comme tel. Ils ont des cornes et j'ai des ailes dans le dos. On m'a répété que j'étais juste en trop. J'ai fait la porte entre ouverte et je fais passer tout le monde. Ils veulent m'arrêter mais je finirai tout devant. J'ai leur sourire dans la tête et d'un coup plus rien d'autre compte. Si je dois partir, écoute-moi, j'aurais voulu que tu le vois. Mais pour l'instant le ciel gronde. Je comprendrai jamais ni comment t'es ni comment t'aimes. Je suis parti loin là-bas, je compte sur le vent pour qu'ils m'enterrent. J'ai les yeux rivés sur mon pain, j'écouterai pas leurs commandes.
et surtout la confusion dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Sandrine Blanchet, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers, et Loïse Boisvert, étudiante en master ergonomie et psychologie du travail, sont avec nous aujourd'hui pour parler des 40 ans de ce master à l'université. On parlait santé mentale. Est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années de peut-être de la prise en compte de cette dimension-là?
Oui, on a constaté dans le discours des personnes qu'on rencontre en entreprise une prise de conscience sur le fait que le travail devrait pouvoir être un endroit où on s'épanouit, où on se développe, et que ce n'est pas forcément le cas. Les statistiques sont un peu inquiétantes, d'ailleurs, sur le sujet de la santé mentale des actifs. On en entend beaucoup plus parler. C'est un terme qui, aujourd'hui, a une définition qui mériterait d'être un peu stabilisée. Il y a déjà une définition au niveau de l'OMS sur la santé mentale tout court, mais la santé mentale au travail en France est... Elle existe dans le Code du travail depuis 2006, mais elle n'a pas une définition encore bien stabilisée. Mais c'est quand même un vocabulaire qui fait écho chez les salariés et chez les dirigeants et dans les organisations syndicales. Finalement, auprès de toute personne que l'on rencontre, c'est un terme qui évoque le fait de ne pas être que sur son activité professionnelle concentrée à s'investir, mais de pouvoir bien le vivre d'une manière générale.
Alors toi, Héloïse, où est-ce que tu vas faire ton stage de master? Master 1 pour l'instant.
Oui, du coup j'ai trouvé un stage au Futuroscope dans le service de santé au travail. Et donc ça serait un stage plutôt axé sur l'ergonomie et la détection en fait, des troubles musculo-squelettiques dans le service de restauration. Et donc ça serait un peu questionner les employés dans ces services-là où on sait qu'il y a quand même pas mal de soucis de ce côté-là pour établir un peu un bilan de ce côté-là.
Et alors, ce que tu me disais hors antenne, c'est que les stages que vous avez chaque année en master sont un petit peu à l'image de l'évolution du travail dans les entreprises.
En fait, en discutant lors de la journée donc des 40 ans avec d'anciens élèves de ce master-là, ils faisaient l'état des lieux que en fait, chaque année, les stages, ils décrivaient vachement ce qui se passait dans la société en fait, actuellement et donc des besoins des entreprises. Donc, en parlant avec des anciens élèves des années 2008, où c'était la crise et tout ça, il y avait beaucoup de sujets de stage qui étaient en lien avec des bilans de compétences ou des remises en question de son travail, de son sens, de ce qu'on y met et de ses compétences qu'on peut valoriser. Et donc, en fait, chaque année, traduit ça. Je sais que l'année dernière, c'était plus des stages axés sur la mise à jour des DUERP, parce que c'est devenu obligatoire pour les entreprises de l'avoir à jour, en fait.
Et, peut-être rappeler pour nos auditeurs et auditrices ce que c'est.
C'est le document unique des évaluations des risques professionnels. Donc, ça fait un état des lieux des problématiques dans chaque poste, en fait. Et donc, c'est beaucoup revenu l'année dernière comme sujet de stage.
Et alors, effectivement, ça suit un peu la vie du travail en entreprise. Si on revient sur le Covid-19, comment ça a influencé sur les pratiques de télétravail, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, on en est revenu? Est-ce que ça a fait bouger les choses?
Alors, il y avait certainement des prémices avant la pandémie de personnes qui vivaient plus ou moins difficilement le rythme qu'elles avaient, de type métro, boulot, dodo, par exemple. Mais là, ça a vraiment mis en évidence deux populations. Ceux qui pouvaient télétravailler, qui ont découvert que finalement, de gagner sur les temps de trajet en particulier, de pouvoir aller chercher ses enfants sans trop de contraintes quand on arrête sa journée de travail, c'était bien. Il y a aussi des populations qui n'ont pas pu travailler et qui se sont rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire quand on n'était pas accaparé par les temps de trajet et le travail, bien évidemment. Donc ça a créé des variations dans la façon dont le travail est perçu comme central dans la vie. Les personnes se sont questionnées sur la place qu'elles octroyaient jusqu'à cette pandémie sur la place au travail. Le télétravail a permis à des personnes de démontrer qu'elles étaient autonomes, qu'elles pouvaient mener des projets, mais pour autant, les entreprises ont eu le sentiment de ne plus pouvoir contrôler, surveiller le travail de leurs salariés. Et donc, certains ont trouvé que c'était très vecteur, révélateur finalement du potentiel de leurs équipes. Et d'autres, qui ont pu faire les gros titres de la presse, ont considéré que la fin de la récréation était terminée et qu'il allait falloir revenir dans l'entreprise. Donc oui, le télétravail aujourd'hui est l'un des éléments qui reste post-pandémie comme symbolique de est-ce que je peux m'épanouir ou est-ce que je dois être entièrement asservi à mon travail.
Et alors des lois comme par exemple la loi sur les retraites, est-ce que ça a un impact sur les entreprises? Comment elles s'en emparent et sur les conditions de travail de toutes les équipes?
Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de sujets, je suis même certaine que nous n'avons pas beaucoup d'étudiants qui travaillent sur la question des retraites, qui semble être quelque chose de toujours un peu lointain, qui n'arrivera que plus tard, alors que pourtant on a déjà une population qui est vieillissante et qui va avoir besoin d'adaptation de ses conditions de réalisation du travail pour rester dans une santé suffisante pour elle-même et pour le travail qu'elle a réalisé. En tout cas, c'est un facteur d'anxiété aussi dans la population active de se dire est-ce que je vais pouvoir tenir longtemps? Et quand on pose la question aux salariés qu'on rencontre, beaucoup disent « Ah non, je ne me vois pas du tout finir ma vie professionnelle dans le métier que j'exerce aujourd'hui ». Donc c'est un sujet sur lequel nous, on va être amenés à se positionner, mais j'espère de manière la plus préventive possible, parce que si on attend, il est trop tard après, en général.
Un sujet peut-être qui vous intéresse plus, les étudiantes et étudiants, c'est la question de l'inclusion, de la diversité dans le management. Je ne sais pas si c'est des questions que vous posez, que vous amenez dans les cours.
Pour l'instant, on n'a pas vu énormément sur ces sujets-là. Après, je pense qu'on en voit surtout en Master 2, des cours un peu plus ciblés et des mises en pratique et tout ça, je pense, davantage qu'en M1, du coup.
Ouais, c'est un questionnement.
C'est le cas, parce qu'en fait, sur la première année de Master, on est sur un enseignement un peu plus généraliste, malgré tout. Et en Master 2, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, on a des animations et des séquences de travail sur le sujet, et notamment un débat mouvant qui demande aux étudiants de se positionner pour ou contre, est-ce que je dois mettre en évidence les différences interindividuelles dans mes diagnostics? Choix difficile, parce que mettre en évidence les différences, ça peut-être nuire à certaines populations, ou au contraire les servir pour mieux aménager leur environnement.
Alors, Héloïse Boisvert, tu as pu rencontrer d'autres, enfin des anciens de ce master lors de cette journée. Quels sont un petit peu les chemins qu'ils ont pris? Est-ce que ça t'a donné des idées pour la suite?
On voit que les possibilités derrière sont quand même assez vastes, que ce soit dans le privé, dans le public ou dans les cabinets directement. Donc ça donne des potentialités, et après c'est en fonction des missions qui nous intéressent, de ce qu'on trouve. Moi personnellement, je ne suis pas encore fixée précisément sur quelle posture je souhaite avoir derrière, mais c'est vrai que ça ouvre un peu le champ des possibles de pouvoir discuter avec des anciens qui sont déjà passés par là et qui sont déjà insérés en fait dans le monde professionnel.
On a des DRH, on a des responsables qualité de vie au travail, on a des consultants chargés de bilan de compétences et de diagnostic, des personnes qui travaillent dans l'insertion pour faire le lien avec la séquence de tout à l'heure. Donc c'est vraiment et des ergonomes bien sûr qui sont en poste en entreprise ou dans des cabinets conseils. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités d'insertion.
Et alors, 40 ans maintenant de ce master, comment vous voyez les 40 prochaines années? Quels sont les nouveaux défis à relever, les nouveaux enseignements qu'il va falloir faire évoluer dans ce master?
Alors, on a déjà une approche sur l'UX design, notamment pour les environnements numériques, mais toute la partie projection aussi et accompagnement des changements, elle va être déterminante, puisque on va devoir demain marier les projets sur les conditions de travail avec les projets sur les conditions de l'environnement. Donc, de garantir aussi que en amenant un nouveau changement, que ce soit sur le bâtiment ou sur les process de fabrication ou sur les conditions de réalisation du travail, ça matche aussi avec les ressources de l'environnement. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudra travailler demain. Renforcer aussi l'approche sur l'inclusion et la partie citoyenne aussi que peuvent avoir les entreprises, puisque face à la montée du nationalisme dans un certain nombre de pays, on voit bien que c'est un sujet qui rôde, en fait, cette notion de discrimination et de mise à l'écart de certaines populations, ce qui n'est vraiment pas du tout dans l'ADN de notre formation. L'intelligence artificielle, on a du mal encore à profiler comment elle va avoir un rôle à jouer dans les conditions de travail, mais elle a déjà sa place et elle crée déjà des dysfonctionnements. Elle n'est pas que facilitante. Elle est facilitante, mais pas que. Donc voilà, ça fait trois grandes thématiques. Et puis, il y a aussi le renouvellement des méthodes pédagogiques pour les étudiants, puisque les générations qui arrivent aujourd'hui à l'université ne sont plus celles d'il y a 40 ans, elles sont complètement connectées. Voilà, donc on adapte aussi nos méthodes en fonction des jeunes qui arrivent et c'est très bien comme ça.
Encore plein de défis à relever pour les futurs ergonomes et psychologues du travail en tout cas. Et puis pour ce master, merci beaucoup Sandrine Blanchet, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers, et Héloïse Boisvert, donc étudiante en master de donc ergonomie et psychologie du travail à l'université. Merci à toutes les deux.
Merci
à vous.
Demain dans Séquence Midi, on fera un point sur le chantier de la caserne à Poitiers. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Il est présenté par Yves.
Et oui, bonjour Anaïs, bonjour tout le monde. Voici quelques idées de sorties à faire à Poitiers et ses environs ce lundi 2 décembre. On commence par du jeu vidéo. The Game Company propose en libre accès trois de ses titres emblématiques au public. Flower, Journey and Sky. C'est donc de The Game Company, un studio de jeux vidéo cofondé par le designer Genova Chen. Le studio décrit ses créations comme des œuvres de divertissement interactives et intemporelles. Ce sera donc aujourd'hui à la médiathèque François Mitterrand jusqu'à 18h et c'est gratuit. Une conférence radiophonique maintenant en public au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, en présence de Marie Diagne, réalisatrice de versions audio-écrites de films pour les personnes malentendantes, qui pourra nous raconter son parcours et son métier. Conférence animée par Agathe Gallo de Quartier Libre, émission de Radio Pulsar. Et c'est gratuit et c'est à 12h30 au TAP. Une séance de discussion au cinéma Le Dietrich maintenant, à 18h30, la projection de Sambizanga, film de 1972 de Sarah Maldoror, est proposée dans le cadre du festival Afrique en Vision, organisé par l'Institut des Afriques et en partenariat avec l'Espace Mendès France et Filmé le Travail. Le film se déroule en 1961 et dépeint les débuts de la lutte pour l'indépendance en Angola. La projection sera suivie d'échanges, fondatrice de l'association des Amis de Sarah Maldoror et Mario de Andrade. On continue par des fanzines. La fanzinothèque du confort moderne organise une exposition de sérigraphie d'une trentaine d'artistes à 19h. Les œuvres seront en vente pour soutenir la fanzinothèque. Rendez-vous donc à 19h au confort moderne. L'entrée y est bien évidemment libre et gratuite. Et enfin, au cinéma de Jancet s'organise une projection à 20h30, une avant-première surprise. Venez découvrir un film dont vous ne connaissez rien, un coup de cœur du cinéma en partenariat avec l'Association française des cinémas d'art et d'essai.
Merci beaucoup Yves, on te retrouve dès demain 8h avec tous les étudiantes et étudiants dans Espace Matin. Sur Pulsar à 18h c'est And The Tap Drips, à 19h X-Bull, à 20h Punks et à 21h Scrogneugneux. C'était Grégory à la réalisation technique, merci. On se quitte avec Christine Salem, réunionnaise, icône du Maloya moderne. Voici son titre Gérier. Bonne écoute, à demain.
Nagela no mama ye wale, ingeli momba la sonongo mama ye wale, ingeli momba, ingela saye, ngorombole, ngora soyongo, ingeli momba, ingela saye, ngorombole, ngora soyongo, ingeli momba. Oh.